Christophe Donnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable de l'allocation d'actifs et de la recherche macroéconomique et chef stratégiste chez Pictet Wealth Management. Nous sommes au siège à Paris où vous avez parlé de cette allocation d'actifs. Quel est le principal regard que vous avez aujourd'hui sur les marchés? Est-ce qu'on est dans un cycle particulier avec un changement, on l'a vu, des banques centrales notamment?
Oui, on est dans un régime particulier à beaucoup d'égards. Citons pour commencer, les banques centrales, qui sont dans un style de politique monétaire très particulier qu'on a appelé le quantitative easing et dans lequel on reste décidément enferré. Les banques centrales n'ont quasiment aucune chance de pouvoir normaliser leur politique monétaire, ce qui nous fait dire d'ailleurs que la règle de Taylor est cassée et par voie de conséquence, la règle d'or est cassée, ce qui veut dire que et les taux courts et les taux longs devraient rester beaucoup plus bas que ce qu'on a observé dans les phases d'expansion économique précédentes. Ça fait déjà beaucoup de spécificités.
Ça veut dire que la politique, enfin les banquiers centraux dont on dit depuis la crise financière de 2007, quand on dit sont à la manœuvre, on aurait pu penser qu'à un moment donné, ils sortaient de leur zone de ce fameux quantitative easing, de ces taux bas. Ils n'ont pas réussi. Et donc, les investisseurs vont rester dans cet environnement de taux bas pour encore, on ne sait pas combien de temps.
Oui, c'est la conclusion que je commençais effectivement à entamer. Donc votre question est appropriée. Les taux devraient rester bas, aussi bien les taux courts pratiqués par les banques centrales, qui devraient faire en sorte que les coûts de financement pour l'économie soient inférieurs à la croissance nominale, ce qui suppose que les taux courts des banques centrales restent très bas et en dessous de ce qu'une règle de Taylor suggère, c'est-à-dire plutôt 2%, 2,5% aux États-Unis au lieu de 3,5% sur les taux courts. Et puis sur les taux longs, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça se propage sur l'ensemble de la courbe de taux et ça nous conduit à des taux d'intérêt de 10 ans bien inférieurs à la croissance nominale, d'où la conclusion que la règle d'or est cassée, puisque les taux longs devraient rester en dessous de la croissance nominale encore pour longtemps. Et la raison de tout ça, c'est elles sont multiples, mais une des raisons, c'est que la croissance économique est relativement faible de façon endogène. Donc la croissance économique a besoin d'un soutien, et le soutien, elle le trouve du côté du crédit. Ce qui suppose que les banques centrales pratiquent un coût de financement de compétition et que les banques centrales pratiquent une injection de liquidités suffisante pour alimenter le crédit, ce qui, d'une certaine façon, condamne la réduction de la taille des bilans que les banques centrales avaient envisagé. Donc les banques centrales, d'une certaine façon, sont condamnées sur le niveau des taux, condamnées sur la réduction de la taille du bilan.
Puisqu'on avait pu, notamment aux États-Unis, penser à un moment donné avec la réserve fédérale américaine qu'on était à nouveau sur une croissance peut-être trop forte de l'économie américaine, c'est plus le cas. Et là, vous dites même peut-être qu'en 2020, on va avoir une baisse de taux aux États-Unis.
Oui, on peut envisager, en l'absence d'inflation, rappelons quand même une hypothèse forte derrière tout ce que nous disons, c'est que l'inflation reste faible. Ce qui est le cas, l'inflation dite sous-jacente est très inférieure aux cibles des banques centrales, qui est autour de 2%, aussi bien d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis. Et or, cette inflation étant inférieure à ce taux cible, ça propulse les banques centrales dans un style de politique monétaire très accommodant que nous venons de décrire. Et comme la croissance de façon endogène reste aussi en dessous des objectifs implicites, parfois explicites, comme au Japon, en termes de croissance réelle, eh bien les banques centrales doivent continuer à alimenter aussi le crédit qui fait une bonne partie de la croissance économique. Autrement dit, la qualité de la croissance est relativement pauvre aujourd'hui.
Alors, dans ce contexte-là, on peut dire que cette déformation de la valorisation des actifs par les banques centrales avec ces quantitative easing pour l'Europe et pour les États-Unis à répétition et qui continue, c'est dans cet environnement-là que l'investisseur, lui, doit se positionner aujourd'hui, c'est-à-dire il doit aller chercher du rendement, mais dans un nouvel environnement encore.
Oui, alors rendement et rentabilité, les deux problématiques s'opposent. Rentabilité, c'est l'appréciation du capital. Le rendement, disons que c'est le niveau des coupons qu'on peut percevoir quand on investit, par exemple, dans une obligation, court terme ou long terme. Du côté rendement, les coupons sont très faibles et vont rester faibles. Ce qui veut dire que pour faire du rendement, il faut aller prendre du risque qu'on ne prenait pas de façon traditionnelle, notamment en allant investir dans les obligations émergentes en monnaie locale, qui offrent aujourd'hui un rendement supérieur à 6%, mais avec un risque de change. Donc aujourd'hui, plus de rendement, c'est plus de risque. Et si on ne veut pas ce risque, eh bien on a moins de rendement. Et du côté des actions, la problématique est différente, mais elle se pose dans la même approche de rentabilité risque. Si la croissance endogène est relativement faible, eh bien, c'est difficile d'imaginer que les marchés d'actions retrouvent un potentiel de hausse très important à partir des niveaux actuels, qui sont des niveaux de valorisation, notamment exprimés à travers les PER, qui sont supérieurs aux moyennes historiques. Ce qui veut dire que la rentabilité qu'on peut espérer du côté du marché d'actions, là aussi, est quand même un défi pour l'investisseur. Ce qui oblige effectivement à imaginer, à concevoir un autre cadre d'investissement que celui qui a prévalu depuis finalement plusieurs décennies. Et là aussi, c'est un changement de régime dont nous parlions en introduction.
Ce que ça veut dire, on le sait, quand il y a des périodes un petit peu tendues, les obligations souveraines ont souvent fait office de, entre guillemets, parachute. Là, c'est même plus forcément le cas, compte tenu justement de cette évolution des taux. Donc, il faut revoir un petit peu la manière dont on se protège aussi, peut-être d'un peu plus de volatilité qui arrive et puis de cette continuité dans les taux bas.
Alors, disons que la protection aujourd'hui a un coût. Si les obligations d'État, par exemple américaines, ont été une protection parfaite depuis une quarantaine d'années, c'est parce qu'elles ont d'abord délivré une vraie protection quand il y a eu un choc, type récession économique ou crise financière, et aussi parce que même quand il n'y avait pas de crise financière ou de récession économique, la rentabilité de ces obligations était très élevée, de l'ordre de 9% en moyenne par an, grâce à la baisse continue de l'inflation pendant 40 ans. Cette tendance s'est achevée aujourd'hui, très, très certainement. Il faut presque même l'espérer, puisque avec une inflation à 1%, il est dangereux d'aller plus bas. Mais ce qui veut dire que si les choses vont bien, ou en tout cas ne vont pas mal, la rentabilité des obligations souveraines va être faible. C'est plus les 9% qu'on a eu historiquement, c'est probablement 2% à 2,5%. Et ce qui veut dire que la protection a un coût en termes de performance, et ça oblige effectivement à concevoir un autre cadre d'investissement.
Alors, vous avez rappelé qu'on était sur un cycle de croissance économique historiquement long. On le sait aussi, et puis on a vu ces marchés depuis autant d'années. Dans ce contexte-là, on envisage forcément qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter. Alors, soit par une récession, soit par un crack, ou les deux. Aujourd'hui, le mot récession, vous l'envisagez pas. Vous dites non, pourquoi une récession? C'est pas forcément à mettre en avant.
Non, parce que pour qu'une récession se produise, la longueur d'un cycle ne suffit pas, la longueur d'une phase d'expansion économique ne suffit pas. Or, on sait que cet été, on sera dans la plus longue phase d'expansion économique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce qui fait craindre à certains, depuis plusieurs années d'ailleurs, que la récession est au coin de la rue. Ce n'est pas aussi simple. Et heureusement que ce n'est pas aussi simple. Et très souvent, ce qu'on a pu observer, c'est que les récessions ont été déclenchées par des crises de surendettement. Et aujourd'hui, le fait que les banques centrales restent à la manœuvre, le fait que les banques centrales pratiquent ce que nous avons décrit tout à l'heure, c'est pour proroger le cycle du crédit et écarter le risque de récession. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous n'intégrons pas le risque de récession dans notre scénario central pour les économies et d'une façon générale pour les marchés financiers.
Voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les banques centrales, comme vous dites, ont été grillées, ou en tout cas n'ont plus aujourd'hui de munitions, ce qu'on dit souvent. Alors certains disent, si elles n'ont plus de munitions, la prochaine crise sera très grave. En attendant la prochaine crise, il faut s'adapter.
Il faut s'adapter et les munitions existent toujours. On peut toujours continuer à étendre la taille des bilans, on peut toujours aller plus bas dans les taux d'intérêt négatifs. Et puis demain, les banques centrales peuvent aussi acheter des actions.
Merci beaucoup, Christophe Denet, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.